Cadavrade, c'est Oles que Olus. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère, à l'écoute de l'émission Marseille avec les Grecs. Merci de nous écouter en direct. Je m'appelle Nicolas Richen et mon leitmotiv pourrait être « Ouvrons grand les portes, les cœurs, les fenêtres et les frontières ». Comme le dit si bien le rappeur La Canaille, mon identité ne sera jamais nationale. Mon identité est la plurielle, elle est changeante. Et heureusement, elle n'hésite pas à prendre la tangente. Elle s'inspire de toute culture, s'inspire de toute étoile. Elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égal. Et oui, du bon rap pour débuter cette émission, c'est un peu une nouveauté sur Marseille avec les Grecs. Au programme ce soir, une heure d'émission pour faire le point sur les luttes en cours chez nos camarades qui résistent partout en Grèce. On se laissera évidemment transporter par des chansons en grec qui nous rapprocheront, je l'espère, un peu de nos sœurs et de nos frères de lutte là-bas. Dans la deuxième partie de l'émission, on fera un petit saut dans l'histoire de la Grèce contemporaine. Nous parlerons de l'insurrection étudiante du 17 novembre 1973 à Polytechnique, un soulèvement qui provoquera la chute de la dictature militaire quelques mois plus tard. On essaiera de comprendre ce qui s'est joué durant cet événement insurrectionnel, cette période de remise en question et de crise où, par définition, plusieurs voies s'ouvrent. Ce moment de basculement, ce moment propice et favorable, le kairos en grec ancien. Pour parler de tout ça, ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné par Eric Face. Salut Eric, Tikanis.
Hola Carla.
Hola Carla.
Tout va bien.
Ora. Eric, tu étais en Grèce ces derniers temps, pendant plusieurs mois, notamment en Crète, pour soutenir une lutte contre un grand projet inutile, un aéroport. Tu connais bien Athènes et je précise que tu as participé à plusieurs convois de solidarité ces dernières années pour soutenir d'un point de vue humain et matériel tous ceux qui souffrent et luttent en Grèce. Les Grecs, évidemment, et les réfugiés, sans distinction. Mais avant de vous parler de la Grèce, on voulait vous rendre un hommage à Christian Garnier, qui nous a quittés des suites d'une longue maladie. Christian était un des membres fondateurs de notre collectif Marseille avec les Grecs. Durant toute sa vie, il aurait été très impliqué politiquement. Alors ce soir, on voudrait lui dédier cette émission.
Oui, tout à fait. Merci d'y avoir pensé, Nicolas.
On va pas changer les bonnes habitudes, évidemment. Commençons par les brèves, Eric. Tu voulais nous parler d'un phénomène qui semble se poursuivre en Grèce. De nouveaux sites historiques devraient être privatisés, comme le palais de Knossos en Crète, n'est-ce pas ?
Oui, alors le gouvernement de Syriza, Tsipras, le Premier ministre, en juin 2018, a publié une liste de 10 000 biens publics concernant les sites archéologiques, des plages, des îles, etc., qui sont en fait, qui seraient la liste des biens publics grecs en garantie à la, pour la Troïka, pour les échéances de la Troïka. Qui serait, cette liste a été donnée à la TAIPED, qui est en fait un organisme paragouvernemental qui est à même de privatiser tous les biens grecs qu'on lui a donné l'autorisation. Cet organisme n'est contrôlé par personne. Donc, après cette liste publiée en juin, le temps de réaction, les universitaires, les scientifiques, les historiens, les archéologues sont plutôt en période de repos. En septembre, il y a eu une grosse mobilisation parce que les maires se demandaient ce qu'il y arrive. Et donc depuis, c'est un grand cafouillage au niveau du gouvernement. Ils disent que les sites avaient été choisis par des numéros, les numéros, c'était pas les bons. Bon, enfin, il y a un gros cravouillage. On se rend compte que quand même là, le peuple grec, les étudiants grecs, les scientifiques, les universitaires grecs tiennent énormément leur patrimoine et leur archéologique et historique. Et je dirais encore ce qui s'est passé à la Corderie, nous, à Marseille, cet épisode où on va dissimuler sous du béton notre patrimoine archéologique, ça ne peut pas arriver en Grèce. Jusqu'à maintenant, encore une terre de résistance malgré 10 ans de mémorandum.
D'accord, merci Eric. On va passer maintenant à la mobilisation pour une école publique et gratuite. Dans les universités grecques, la lutte se poursuit également. La situation est toujours très dure pour les étudiants grecs, souvent contraints de cumuler plusieurs petits boulots pour survivre à côté des études. Se loger et se nourrir est une source quotidienne de stress et d'angoisse pour ces jeunes, sans parler des conditions d'études sur les campus qui sont toujours plus difficiles. Ces dernières semaines, des étudiants et des lycéens ont bloqué l'entrée du ministère de l'Éducation pour dénoncer une loi qui va dans le sens de la marchandisation du savoir et de l'université, une fois encore. On a aussi l'habitude de ça en France, hein, de plus en plus, on s'y habitue malheureusement. Les étudiants ne sont pas des clients, pouvait-on lire sur une des banderoles. Et pour ne pas arranger la situation sur les campus, l'extrême droite la plus xénophobe, nationaliste et fasciste occupe certaines universités en opposition au gouvernement Tsipras et en raison des enjeux concernant la Macédoine. Tout le combat pour la gauche est donc de combattre cette présence nationaliste et fasciste, ainsi que la confusion politique qui peut régner sur certains campus. Voilà, maintenant on va...
Oui, alors il se passe aussi des...
On va passer en musique, juste avant. On enchaînera par la suite. Je vous propose une petite pause musicale avec The Villagers of Ioannina et leur titre qui s'appelle Zvarla.
Bye.
C'était Zvara du groupe The Villagers of Ioannina. Ioannina, c'est une ville au nord-ouest de la Grèce, pas loin de l'Albanie. Donc on va poursuivre, vous êtes toujours à l'écoute de Marseille avec les Grecs, on va poursuivre notre première partie de brève avec Eric qui va nous parler de la réforme constitutionnelle.
Alors il y a une réforme constitutionnelle en cours, enfin qui devrait être en cours mais qui a du mal à aboutir en effet. En fait, qu'il s'agit de détricoter les liens entre l'Église orthodoxe et la gouvernance grecque. L'article 3 de la Constitution de 1975, promulgué au nom de la Sainte Trinité, stipule « la religion dominante en Grèce est celle de l'Église orthodoxe orientale du Christ ». Psittras est un athée convaincu et affirmé, et il s'est même marié que civilement dans un pays comme la Grèce. Je peux vous assurer que c'est déjà une performance pour un homme politique, même si on peut rejeter beaucoup de choses de chez lui. Donc en fait, il s'agit en fait d'une réforme structurelle, mais surtout sur le fonctionnement de l'Église orthodoxe au sein de l'État grec. C'est-à-dire que les papous, donc on va dire que les pasteurs ou les curés de l'Église orthodoxe, sont des fonctionnaires de l'État grec. Et l'enveloppe globale des salaires est de 200 millions. Donc le gouvernement souhaiterait dans un premier temps que cette enveloppe budgétaire soit sortie de l'État du budget de l'État. Forcément, vous voyez pourquoi, derrière la Troïka, ça fait 200 millions en moins sur le budget de l'État, bien évidemment. Et il y a une autre chose aussi qui est en cours, c'est le point de refus de l'Église orthodoxe, c'est que l'État grec souhaite imposer le patrimoine immobilier non dédié au culte, souhaite donc l'imposer. Et donc là, pour l'instant, les privilèges de l'Église sont tenus et ils n'arrivent pas à trouver d'accord. Ça a l'air insignifiant, mais c'est énorme au niveau de l'histoire et de la constitution grecque, cette fusion et cette collaboration entre l'Église orthodoxe et l'État grec. Pour l'instant, c'est stand-by. Il avait eu un premier accord avec le représentant des patriarches, des papes, comme c'est comme c'est une église horizontale, il a fallu qu'il renvoie le tir. Donc pour l'instant, pas d'accord de réforme de constitution, c'est bloqué. Et donc là, c'est difficile parce que l'Église représente encore énormément en Grèce.
Ok, très bien. On va passer maintenant au meurtre de Zach Kostopoulos. On vous en avait parlé lors de notre dernière émission le mois dernier. C'est quelque chose qui a fait beaucoup parler en Grèce et même jusqu'en France.
Tout à fait.
Donc c'est un militant gay, militant LGBT qui était tué dans les rues d'Athènes. C'est un activiste gay qui assumait publiquement sa séropositivité. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel en Grèce, de revendiquer, d'assumer publiquement ce genre de choses. Et il était tué le 21 septembre dernier devant une bijouterie dans le quartier d'Omonia à Athènes. Les auteurs de cette agression sont un commerçant et un individu passé par un groupuscule ultranationaliste qui s'appelle le Front Patriotique. Dans un article intitulé « Des policiers impliqués dans la mort d'un activiste LGBT », Mediapart nous explique que pour l'heure, tout indique que l'enquête n'a pas suivi un cours normal et que les auteurs des violences bénéficient d'étranges protections. Un premier fait retient l'attention. Les 8 policiers qui sont intervenus sur le lieu de l'agression ne sont en aucun cas venus porter secours à Zach. Bien au contraire, ils l'ont frappé à leur tour, ils l'ont menotté alors qu'il agonisait. Zach a été amené main attachée en ambulance à l'hôpital, où il a été déclaré mort à son arrivée. Si ces policiers ont été suspendus, ils n'ont pour l'instant pas été mis en cause dans l'enquête. Ajoutons que les forces de l'ordre ont quitté le lieu sans sécuriser et sans faire de prélèvement sur place. C'est comme quelque chose d'assez inhabituel. Je cite Mediapart une fois de plus. Pendant plus d'une heure, la bijouterie et ses alentours sont ouverts au tout venant. Le cordon sanitaire habituel n'est pas installé pour permettre l'enquête préliminaire et le propriétaire du magasin qui a frappé Zach nettoie tranquillement sa boutique. Par ailleurs, la police n'a pour l'instant pas fait de recherche de témoins, ce qui est aussi assez inhabituel. Il faut rappeler que la place Omonia, et le quartier plus généralement, c'est un endroit déshérité, quasiment laissé à l'abandon, où se croisent toxicomanes et petits trafics en tout genre. Le chaos social et économique a vu s'ouvrir là de nombreux petits magasins de rachat d'or, où les Grecs peuvent vendre leurs bijoux de famille en échange d'argent liquide. Mediapart explique que de nombreux témoignages soulignent que ces bijouteries sont en réalité alimentées par des vols et que tout cela se ferait en toute impunité devant les forces de police qui sont présentes quotidiennement dans le quartier. On comprend bien, dès lors, pourquoi la police aurait tout intérêt à étouffer son rôle dans l'affaire. En tout cas, une chose est sûre, des examens ont balayé une rumeur. Zach n'était aucunement sous l'effet de drogue lorsqu'il s'est retrouvé dans le magasin. Ce n'était donc pas un toxicomane à la recherche d'argent. Désormais, ses amis et sa famille se mobilisent pour faire établir la vérité et juger les coupables. De nombreuses manifestations sont prévues pour que justice soit faite. La prochaine se déroulera le 1er décembre et aura lieu sous les fenêtres du commissariat central d'Athènes. Rappelons que la Grèce a derrière elle une longue histoire, une longue tradition, on pourrait dire, de violences policières qui sont restées impunies et n'ont été sanctionnées que de manière très légère. On peut parler d'une justice sélective qui s'est longtemps caractérisée par ce que l'on appelle en Grèce le parakratos, c'est-à-dire l'état profond, qui s'est maintenu au sein de certaines autorités après la chute de la dictature des colonels en 1974. Voilà, c'était tout pour cette affaire. On vous en reparlera sans doute dans les prochaines émissions. Et maintenant, on va parler des mises aux enchères, Eric.
Mises aux enchères après saisie. C'est ça l'important, surtout. C'est surtout les saisies. Pourquoi autant de saisies ? Ben écoutez, c'est un peu ce qui se passe aussi chez nous en ce moment avec les gilets jaunes, entre guillemets. Je sors un peu du sujet, mais c'est un peu... On vous donne un salaire et puis on vous augmente les taxes derrière. Et puis derrière, vous ne pouvez plus payer votre maison et on vous la saisit. Non, le sujet qui est important, il faut comprendre que malgré toute la résistance, malgré tous les mouvements solidaires qui ont été mis en route en Grèce pour empêcher ces ventes aux enchères de du bien immobilier des personnes et des familles, en 2018, depuis février 2018, on arrive à plus de 11 000 biens vendus malgré tout, malgré les interruptions de séances, malgré les procès des activistes, malgré les résistants des solidaires, on arrive quand même à 11 000 biens immobiliers, parce qu'il y a aussi plus de 1000 voitures, il y a un nombre incalculable de choses qui sont saisies et vendues aux enchères. Public. Malheureusement, le public en Grèce, il n'a plus trop de sous. Donc, sur les appartements, on sait que, par exemple, à Athènes, c'est des investisseurs privés qui mettent ça sur Airbnb, après derrière, donc tout ce que ça peut. Donc, l'essentiel, on vous en parlera tous les mois, vraisemblablement, de se vendre aux enchères après saisie, parce que c'est le combat du peuple, c'est le combat sur sa vie privée et sa propriété. Mmh. Voilà. Donc en 2019, le gouvernement, poussé par la Troïka, forcément, là, le mémorandum, enfin qui n'existe plus soi-disant, souhaiterait étendre ses saisies à 50 000 biens immobiliers vendus aux enchères en 2019. Voilà. Donc des procès, des luttes toujours en cours. Malheureusement, après les interruptions de séance, puisque les ventes aux enchères étaient faites en audience, l'État a réussi, malgré quelques piratages informatiques et quelques soucis à mettre en place, ils ont mis en place donc des ventes aux enchères sur Internet, qui sont beaucoup plus faciles d'accès pour les étrangers et les investisseurs, justement.
Et à côté de ça, on a observé ces derniers mois une accélération aussi de la répression pour tous ces mouvements, notamment Δεν πληρώνω, qui veut dire je ne paye pas, tous ces mouvements qui luttent contre ces saisies.
Tout à fait, voilà. Maintenant, ils sont tracés. Il y a des personnes, ça fait 4 fois qu'ils passent en procès. Tout à fait. Ils résistent fortement.
Ah ouais, c'est une lutte de tous les jours, vraiment.
C'est une lutte de tous les instants, oui.
Ok, très bien, Eric. On va passer maintenant à quelques nouvelles pas très réjouissantes de Lesvos, la fameuse prison de la honte à Moria. Marine Janin et Sarah Samia sont parvenues à entrer illégalement dans ce camp interdit aux journalistes par peur de reportages alarmistes. Pour le site francophone Asia List, ces deux journalistes se sont intéressés aux réfugiés afghans en proie à la violence et qui ne reçoivent plus ni soins ni justice. Des populations oubliées, en somme. Dans leur article, intitulé « À Lesvos, la dignité perdue des migrants afghans dans le camp de Moria », elle raconte les conditions de survie de ceux qui ont fui la guerre en Afghanistan et se retrouvent parqués dans cette prison qui est devenue le camp de Moria. Conçue pour abriter 3100 habitants, elle en compte aujourd'hui près du triple. Les familles s'entassent dans des tentes bondées, si serrées qu'elles laissent tout juste la place pour circuler. Des bébés dorment à même le sol. Une femme témoigne dans l'article. Elle dit « Nos droits ne sont pas pris en compte ici à Moria. On n'est même pas considérés comme des êtres humains. » Une mère raconte le quotidien des réfugiés. C'est l'attente. On doit faire la queue pour tout. La nourriture, l'eau, les toilettes, la douche. Il faut toujours attendre. Je vis ici depuis 2 ans avec mon fils et il commence à avoir des problèmes psychologiques. Je le vois bien. Les suicides sont nombreux dans ce camp. Mi-septembre, Médecins sans frontières avait signalé, je cite, de multiples cas d'adolescents qui ont tenté de commettre un suicide ou des automutilations. Ces équipes, alertent l'ONG, doivent gérer de nombreux incidents critiques résultant de la violence dans le camp et des mutilations d'enfants et le manque d'accès aux soins médicaux urgents. Voilà, c'est une situation qui est toujours très très chaotique et en plus là, avec la baisse des températures, on imagine bien que les conditions ne vont pas du tout s'améliorer dans les prochaines semaines.
Oui, le mouvement général en Europe, malheureusement, tout ce qui a trait aux migrants, tous les camps et tout ce qui est réfugié, ça devient compliqué. Ouais. Et heureusement qu'il y en a encore qui luttent et qui résistent. On pourra donc je remercie Radio Galère. Hein, on le dit jamais assez de nous recevoir. On est peut-être la seule émission de radio en France à passer une heure par mois sur l'actualité grecque. On n'arrivera pas d'ailleurs à parler de toutes les brèves qu'on a, mais c'est un choix éditorial, on va dire. Ouais. Mais bon, on essaie de faire tourner d'ailleurs les animateurs et animatrices de l'émission. Mm-hmm. Et aussi mais bon, il y a des sujets récurrents comme ce qu'on vient de citer tout à l'heure, hein, les migrants, hein, la qualité de vie des migrants, ou plutôt la qualité d'accueil, entre guillemets. Les réquisitions de l'immobilier, quoi. La paupérisation du monde grec, quoi. Du peuple grec. Quoi.
Voilà. Ouais, très bien. Maintenant, on va revenir dans les rues athéniennes et on va vous faire écouter un extrait d'une manifestation récente à Athènes. C'était un court extrait de la marche annuelle en commémoration au soulèvement étudiant du 17 novembre 1973. C'est une marche qui a eu lieu donc il y a quelques jours. C'était on fêtait le 45e anniversaire, hein, du soulèvement de 1973. Et voilà, peut-être qu'Éric, tu peux nous donner un peu plus, nous dire un peu plus d'informations là-dessus.
Moi, j'avais l'impression de retourner quasiment un peu plus d'un an en arrière, hein, puisque j'étais le 17 ouais. novembre 2017 sur Athènes, et ces chants-là, on les entend bien. Il n'y a ouais. pas la résonance, la caisse acoustique de la rue, parce que c'est très impressionnant quand vous les entendez en direct et en live, comme on dit. C'est ouais. très, très impressionnant. Oui, donc le 17 novembre... C'était des journées de mobilisation qui commémorent, la sortie de la dictature, le ouais. début de la sortie de la dictature, ouais. puisque ce n'est pas cette date-là, en effet, mais ça a impacté l'histoire ouais. grecque importante. Pourquoi ? Parce que les chars sont rentrés dans l'école polytechnique. Mmh. Polytechnique, pas au sens français, hein, c'est polytechnique dans le sens des sciences polytechniques, pas polytechnique, une école militaire. Hein. Loin de là, c'est plutôt le contraire. Ouais. Et donc, le 17 novembre, à Athènes, d'abord, on comprend qu'il va se passer quelque chose, parce que 2-3 jours avant, toutes les rues du centre-ville, comme par hasard, il y a des places de parking de partout, il n'y a plus de voitures, plus personne ne stationne, les rues sont très calmes, on sent bien, les magasins se protègent, il y a des plaques, tout est protégé, verrouillé, etc. Et donc, le 17, il y a la manifestation qui va régulièrement, qui va jusque devant
l'ambassade américaine.
L'ambassade ouais. américaine, pour X symbolique, que vous comprenez bien.
On vous expliquera par la suite.
Oui, tout ouais. à fait. Et donc, là, la mobilisation, ça dépend des années, hein, on va dire au minima 5 000 dans le cortège... solidaire, hein, on va dire, même plus, hein. Même au minimum, ouais, hein, ouais. C'est vraiment, ouais, et ça peut monter jusqu'à 3, 4, 5, 10 fois plus, même certaines ouais. années, tout à fait. Voilà. Moi, ben, je ne sais pas, d'abord surpris par cette ampleur de manifestation, surpris par le déploiement policier, parce que les maths qui sont les CRS chez eux, ce n'est pas détendre. Hein. Je vous assure, quand ils passent en moto avec le passager à l'arrière, il n'est pas figurant, hein. Il a la matraque dans les mains et ça tape. Et alors ça se passe bien, et puis au bout d'un moment, ça se passe bien, il y a les hélicoptères au-dessus d'Athènes qui tournent en permanence, et puis au bout d'un moment, il y a des provocations de fascistes ou de gens d'extrême ou d'une autre, et qui vont casser, qui vont aller cibler le cortège solidaire, et là ça part... Mais alors là, honnêtement, j'ai jamais vu autant de gaz lacrymogène dans une ville d'Europe. Quoi. Nous, à Marseille, j'ai une référence, hein, je vais la citer, c'était pour la Coupe d'Europe en 2016. Les Anglais qui se sont battus contre les Russes, le Vieux-Port avait été inondé de lacrymogène. Nous, on était à la plaine, on le sentait. Mais là, à Athènes, je peux vous garantir que même à l'intérieur des appartements, vous étiez encore gazé. C'est incroyable la répression, incroyable.
Ouais, et cette année, ce qui était un peu particulier, c'est qu'il y a eu quand même des protestations, même des altercations hein, vis-à-vis de dirigeants de Syriza qui voulaient déposer des gerbes devant Polytechnique, même devant l'ambassade américaine. Visiblement, il y a vraiment une partie des manifestants qui veulent vraiment demander, en tout cas à la base de Syriza, enfin, ce qu'il en reste, une clarification. Quoi. Est-ce que vous soutenez le pouvoir ou est-ce que vous êtes avec nous quoi. Il y a un peu ce dilemme-là. Quoi.
Le rapport de force durcit, hein, ouais. Tout à fait, ouais, c'est clair. Mais les gens sont de plus en plus acculés dans les retranchements de la bête, entre guillemets, hein, la bête humaine que l'on peut l'être. Hein. Donc c'est difficile.
Ok, très bien. Mais avant de revenir plus en détail sur ce qui s'est passé il y a 45 ans, le 17 novembre 1973, on va repartir en musique avec Social Waste et son titre Casbah.
Τραβούσαμε με βήμα αργό προς την Κασμπά. Φέση αλγερίνικο φορούς ο σύνοδός μου. Το στίχοποίησε το λαμπρότερο σου δός μου. Για να ιστορήσω κάποια πράγματα θα πά. Ο ανήφορος ψηλός πολύ και σκαλωτός. Αρχαία γιωμάτος μαγαζιά και οπλοπολία. Η παραλία κάτου φαινόταν με τα πλοία και ένας πολύγλωσσος περχόταν συφερτός. Μαύρες γυναίκες στολισμένες με λευκά, αλγερινές που εθορυβούσαν και γελούσαν και ναυτικοί από ξένες χώρες που φορούσαν κάσκες παράδοξες και ρούχα τροπικά. Σπίτια παλιά δίχως παράθυρα ψηλά κι απά σε πέτρινα πεζούλια καθισμένες πάτρωνες γριές σαν από κόλαση βγαλμένες παίζανε ζάρια και τραβούσανε δουλά με σε κοιτώνες χωρισμένους σκοτεινούς απάνω σε φαρδιά και βρώμικα κρεβάτια άσπρες και μαύρες με φρικτά και αφωτά μάτια δίχως ορίζοντα και δίχως ουρανούς μέσα στο νούμερο ταλάτενα λευκό κορμί γυναίκα σε ένα ολόμαυρο μετέρι στα χέρια της παίζει με τέχνη ένα μαχαίρι και ένα χοντρό βιβλίο διαβάζει παλαιϊκό. Με χαιρετά με μια ευχή αραβική και μου μιλεί από κάθε γλώσσα λίγα λόγια που τις εμάθαν μες τα ξένα καταγόγια όσοι κοιμήθηκαν μαζί της ναυτικοί.
Σκατάλα τύρον άρκουλ. Χάργαλικ. Σε μικάρα τσιλιούλα. Δεν είναι
όμως κρατάμε τα χείλη της κλειστά Αν μείνεις μου πε το όνομά μου μη ρωτήσεις. Μισώ τις μάταιες τις εξομολογήσεις και των αντρών τα μάταια λόγια τα ζεστά. Μείναμε δίχως να μιλάμε ως την αυγή και όταν επλήρωσα και κίνησα να φύγω κουδούνισε τα χρήματα στο χέρι λίγο και μου τα πέταξε στο πρόσωπο με οργή και μου είπε αν ζήσατε πολύ στους τροπικούς και αν διαβάσατε παράξενα βιβλία μάθατε μόνο να οδηγάτε αργά τα πλοία στους χάρτες σκύβοντας τους μερκατορικούς αλλά το ασάλευτο ταξίδι των πορνό ποιος από σας τυφλή ποτε το βλέπει ο μεσονύχτιος ήλιος πάντοτε το σκέπει και τ' άστρο κάποιων άγνωστών σας ουρανών. Ευγήκα απόξω από την πόρτα τη σειρά προσμέναν Γάλλοι, Εγγλέζοι και Σενεγαλέζοι κι αυτοί κλεισμένοι το μαχαίρι της να παίζει πετώντας το στον τοίχο τούτη τη φορά. Και τράβηξα τρεκλίζοντας με βήμα αργό ώσπου έφτασα με τη βοήθεια του Κυρίου απ' την αρχαία πολιτεία του Αλγερίου στο ξεβαμένο μας τεράστιο φορτηγό.
Vous venez d'écouter Kasbah du groupe Social Waste. Leur album s'appelle Stiorti Tis Utopias. On va amorcer maintenant de plein pied la deuxième partie de l'émission, Eric, en faisant un petit peu un saut dans le passé, en essayant de comprendre ce qui s'est passé il y a 45 ans, le 17 novembre 73, avec ce soulèvement étudiant. Donc le 17 novembre 73, la junte militaire envoyait les chars à l'école polytechnique d'Athènes, bastion de la contestation. À 3h du matin, un char transperce les grilles de l'université et l'assaut fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. On n'a pas encore de chiffres exacts.
Hein. Ouais, y a une grosse dispute sur les chiffres, ouais, tout à fait. Ouais.
Cette répression inouïe et ces événements meurtriers précipitent la chute de la dictature l'année suivante. Et ce passé, il reste encore très douloureux. En Grèce, quand on en parle, même à la jeune génération, c'est quelque chose qui est encore très, très ancré. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment un régime spécial hein, qui est arrivé, c'est-à-dire que les partis politiques d'opposition interdits, les militaires au pouvoir. Il faut savoir que déjà, même avant, avant la dictature, donc la dictature ça commençait en 67 en Grèce, il y avait déjà les institutions démocratiques étaient déjà bien, bien malmenées à l'époque. Et donc cette dictature qui était instaurée, c'était vraiment sur le modèle de la dictature sud-américaine, hein. Donc avec le soutien des États-Unis.
Tout à fait.
Qu'il faut vraiment souligner. Hein. Et pourquoi les États-Unis avaient soutenu le régime à l'époque? Parce qu'il y avait la peur de la contagion hein, du communisme.
C'était l'histoire de.
En Europe.
Oui, tout à fait. La guerre froide. C'était un des pions de la guerre froide, la Grèce, hein, finalement, quoi, malheureusement. Exactement. Excusez-moi d'en parler comme ça, mais les États-Unis ont beaucoup poussé et ont beaucoup soutenu ce régime.
Il faut savoir que ce qui est particulier, quand même, c'est que même la droite, une bonne partie de la droite, contestait hein, ce régime. Donc c'était vraiment l'opposition à ce régime des colonels a été très large. Hein. Ce n'était pas seulement les anarchistes, les communistes, les socialistes, c'était vraiment certains qu'on pourrait qualifier de centristes, même une partie de la droite qui dénonçait, qui s'opposait à ce régime-là.
Hein. Donc, c'était une sorte de colonie, quoi, entre guillemets, quoi. Hein. C'est pas tout à fait le bon terme, mais se sentait comme ça, quoi.
Ouais, c'est ça. Et il faut savoir qu'à l'époque, hein, tout opposant passait en cour martial. Il y avait pas mal de prisons, hein, notamment sur les îles, hein, où tous les opposants politiques étaient parqués dans des camps de concentration, hein, littéralement, hein, c'était ça. Hein. Donc, ça a duré de 67 à 73, hein. De 74 même, parce que 73, c'est le début du soulèvement, mais c'est que quelques mois plus tard que réellement il y a eu un rétablissement de la démocratie représentative, on va dire. Et donc c'était vraiment une période douloureuse hein, pour le peuple grec. Et moi, je me souviens, en 2016, toi, Eric, tu as vécu hein, ces périodes de commémoration en 2017, hein, il y a un an. Moi, c'était le cas il y a 2 ans, en 2016, et j'en garde vraiment un souvenir marquant, parce que c'est vrai que c'est 3 jours. Et c'est pas seulement de la commémoration. Hein. Et puis, effectivement, on se replonge, les militants se replongent dans ces luttes du passé. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Hein. On essaie de faire le lien entre le passé et le présent. Et il y a vraiment une culture politique, notamment dans les universités, hein, très présente. Hein. Il y a beaucoup de projections de films, de débats. Chaque tendance politique a son stand. C'est quelque chose de très, très intense.
Je suis très impressionné chaque fois que je vais en Grèce, et j'y vais depuis assez longtemps maintenant, même plus de 30 ans, de la culture politique du peuple grec. Ils ont vraiment une très grosse culture politique. Ils savent plus de choses que la plupart de mes concitoyens français ou marseillais hein, sur la politique, mais même pas qu'au sens global. Que de chez eux, hein. Même au niveau géopolitique mondial, ils sont très avertis, ils en parlent beaucoup. Je crois que le sujet politique est un sujet de bistrot, entre guillemets, quoi, si je peux me permettre.
Oui, tout à fait. Ouais. Et je pense que ça, dans l'engagement de beaucoup de Grecs et de jeunes, hein, ça a vraiment un impact aujourd'hui, parce que quand on voit aujourd'hui ce moment de basculement un peu dans lequel on se retrouve encore depuis déjà plusieurs années en Grèce, il y a vraiment cette conscience à gauche, hein, et je parle à gauche au sens large, hein, le mouvement social, que voilà, un retour à la dictature, pourquoi pas une guerre civile, c'est vraiment un danger hein, qui plane aujourd'hui sur la Grèce. Donc les militants quand même sont vraiment conscients du danger, c'est pour ça qu'ils se défendent aussi face aux fascistes, face à la police, qui s'organisent parce qu'ils sont conscients que voilà, hein, ça peut très bien se reproduire, hein, même si ça c'est... C'est 74, c'est pas si loin que ça finalement.
Hein. C'est la date fait peur d'ailleurs. Moi, la première fois que je suis allé en Grèce, c'était en 86, et on sentait vraiment que c'était une toute jeune démocratie et qu'ils appréciaient cette pseudo-liberté, hein, parce que on est quand même sous contrôle. Et d'ailleurs, c'est toute ma stupeur quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, et en quel état est aujourd'hui le peuple grec. Quoi.
Ah oui, non, mais c'est clair. C'est clair que ce danger, il est présent et... Et toute la question de savoir, c'est est-ce que l'opposition, est-ce que le mouvement social va être suffisamment fort pour repousser ce danger-là ? Et ça, pour l'instant, on ne peut pas avoir encore de réponse très très claire. Mais en tout cas, moi, j'aimerais quand même revenir sur la dimension émotionnelle de ces 3 jours. Parce que je les ai vécus, personnellement, et toi aussi, Eric, tu as vécu, tu as été dans des manifestations à ce moment-là. Et moi, je n'ai jamais vécu ce genre de manifestation en France. Il y a un côté très, très, très émotionnel. On voit que les jeunes qui n'ont pas vécu cette période-là... chantent des slogans en mémoire des victimes, des slogans aussi hostiles aux États-Unis, à l'OTAN. Et c'est vraiment une des plus belles manifestations de ma vie que j'ai vécues à ce moment-là. Et effectivement, il y a quelque chose de... Même dans le ton de la voix, quand les Grecs chantent,
les chants, ces slogans,
c'est quelque chose...
Ils sont très impressionnants. Il y a une caisse de résonance, ça fait vraiment... ça chante, quoi. C'est vraiment impressionnant, ça prend au corps, quoi.
Oui, clairement, puis il y a une espèce de décorum, hein, d'ambiance, hein, parce qu'effectivement, il y a les hélicoptères hein, au-dessus de l'ambassade américaine, il y a une très très forte présence policière, il y a tous les quarts de CRS devant l'ambassade américaine, qui est certainement les bâtiments les mieux protégés de Grèce. Donc il y a vraiment une ambiance particulière. Et puis souvent, il y a la manifestation traditionnelle, la marche, qui regroupe le mouvement social dans son ensemble, les syndicats, les partis, toutes les tendances de gauche, d'extrême gauche. Et par la suite, ça se termine souvent en confrontation avec la police, notamment près d'Exarchia ou sur la place du quartier libertaire. Et cette année, pour la première fois, on a eu droit au canon à eau.
Ouais, alors d'après une information qu'on recoupait, cette année, ils ont sorti les canons à eau. Bon, pourquoi pas, hein, une méthode de répression en plus. Ce qu'on sait, c'est que par contre, cette année, vraiment, les dirigeants de Syriza ont été pris à partie hein, par la foule. Ils voulaient déposer des gerbes à Polytechnique en commémoration hein, de la date. Ils ont été sifflés et même, je crois, renvoyés par le public en place. Polytechnique, il y a quand même une chose à savoir, c'est qu'en gros, tous les vendredis soirs, hein, c'est 52 vendredis soirs dans l'année, tous les vendredis soirs, il y a quand même une petite échauffourée entre ceux qui gardent et qui squattent l'école de Polytechnique et les CRS qui sont là pour essayer de s'introduire. Bon, c'est un rituel qui fait que bon, ben, on se rend bien compte que chaque force est en présence, mais personne ne va franchir la frontière pour déclencher d'autres émeutes, on va dire. Mais sinon, bon, le 17, c'est vraiment très impressionnant. J'ai pas connu de manif non plus à ce niveau-là en France, mais des chants comme ça, chanter
avec cette ferveur, quoi.
Ouais, avec cette ferveur, c'est pas comme des slogans de manif, non, quoi, non. C'est vraiment des...
Tout le monde, il faut savoir que tout le monde chante, il n'y en a pas un dans la manifestation.
Voilà, tout le monde va chanter, quoi. C'est, tout le monde est du cœur à l'ouvrage, entre guillemets. Quoi.
Ce qui est frappant aussi, moi j'ai encore évidemment des images en tête, c'est là aussi la proximité entre les, voilà, les manifestants. Il y a vraiment, on fait bloc, quoi. On est ensemble, on se tient la main, on est vraiment... C'est quelque chose de vraiment très très quasiment ritualisé, on pourrait dire. Et ouais, non, c'est vraiment quelque chose de marquant et... Vraiment, si vous avez une fois l'occasion d'aller à Athènes dans cette période-là, n'hésitez pas à participer à ce genre d'événement parce que franchement, moi, ça transforme, hein, je pense, la conscience politique et c'est vraiment quelque chose voilà, qui nous suit pour le restant de nos jours. Donc voilà, on a fait un
donc,
peu de tour.
Oui, un petit tour du cortège. Bon, le cortège, en général, ça se passe relativement bien jusqu'à, allez, on va dire, la nuit tombe tôt en novembre, mais bon, jusqu'à ce que la nuit tombe, quoi. Et en général, c'est à partir de la pénombre que ça commence à dégénérer. Et là, après, ça part dans tout azimut. Bon, ben, ça peut être des voitures qui sont en stationnement brûlé, la répression des autorités, les gaz lacrymogènes, partout dans tous les quartiers, notamment le quartier de résistance et solidaire à Exercia. Et là, je vous assure vraiment un parfum de gaz lacrymogène dans toute Athènes, enfin tout le centre historique et antique d'Athènes. Quoi. Et même à l'intérieur des appartements, vous ne pouvez pas vous réfugier, ça sent aussi... Vous avez les yeux qui piquent aussi. Quoi.
Ah ouais, tout à fait. Voilà. Et toi, Eric, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rentrer dans Polytechnique ?
Oui, j'y suis allé plusieurs fois. J'y suis allé même un petit vendredi soir, pas ce 17 novembre-là, mais j'y suis allé en 2018, du dernier convoi que j'ai fait au mois de mai. Là, on avait un bon petit convoi avec bien des jeunes bien engagés qui voulaient aller voir. Et donc, je suis allé le vendredi soir aller voir aussi, pour un peu sécuriser un peu aussi les camarades du convoi, quoi, voir un peu qu'ils fassent pas, se mettent pas trop en avant pour pas prendre... Mais bon, c'est des affrontements réguliers, c'est des échanges de...
D'amabilité,
voilà. Et j'ai vu une... Par exemple, il y a certaines fois, les militants envoient des bouts de bois, quoi, et hop, les policiers les renvoient, enfin c'est... Mais bon, de temps en temps, ça dégénère un peu, ça déborde un peu sur le quartier, voilà. Quoi.
Ouais, tout dépend de l'actualité. Moi, je me souviens, en 2016, c'était particulièrement chaud parce qu'Obama arrivait dans cette période-là. Ce qui était particulièrement symbolique, hein, quand même, pour Tsipras d'accueillir Obama durant cette période-là, quand on sait la responsabilité aussi des États-Unis. Donc là, je me souviens, moi, quand j'arrivais, ça devait être 2 ou 3 jours avant la manifestation, et Athènes bouclée, les hélicoptères dans le ciel, vraiment... Une atmosphère particulière, hein, les commerces qui sont fermés, les banques protégées. Et c'est vrai que pour en revenir à la marche, hein, on voit bien qu'il y a 2 temps. Il y a un premier temps quelque chose de qui est bien rangé, bien organisé. On voit aussi que les militants en général sont casqués, ont vraiment aussi de quoi se défendre au cas où. Hein. Ils viennent pas là dans une manifestation comme un dimanche en famille. Hein. C'est vraiment quelque chose qui peut être assez violent. Et dans un second temps, il y a souvent des foyers après d'émeutes un peu partout dans le centre-ville d'Athènes, et particulièrement à Exarchia, comme tu le mentionnais. Et pour en revenir aussi à Polytechnique, il faut quand même savoir que depuis déjà un bon bout de temps, je pense plusieurs années, cette université, elle est occupée pour accueillir des réfugiés. Hein.
C'est aussi, tout à fait. Ouais. Je crois qu'il y a 80 réfugiés en permanence. Ouais.
C'est quand même quelque chose d'incroyable. Hein. Ouais. En France, on aurait du mal à imaginer ce genre d'action politique, quoi.
Par contre, là, je vais refaire une bouclage sur une brève, mais c'est quand même l'info comme quoi le nationalisme est en train de rentrer dans l'université. Ouais. C'est une des brèves qu'on n'a pas pu citer, mais du coup, j'en profite. Aujourd'hui, il y a vraiment un gros, gros problème. Bon, alors, c'est lié aux événements récents par rapport au renommage entre guillemets de la région de Macédoine. Donc le nationalisme a repris de l'ampleur en Grèce, et donc du coup les nationalistes dans les universités en profitent pour se déclarer et mettre la pression, et même mettre la pression même sur des, donc c'est des étudiants, des universitaires, et mettre la pression sur les professeurs qui ont des partis, enfin des prises de position qui ne leur conviennent pas, voilà. Etc. Ouais. Et donc il y a une très mauvaise atmosphère apparemment aujourd'hui dans les universités. Je crois que tu peux en dire 2-3 mots en plus.
Je discutais justement avec une militante, une amie là, qui fait partie d'un front antifasciste antiraciste et qui est aussi membre d'un mouvement socialiste révolutionnaire. J'ai discuté avec elle ces derniers jours, elle me disait la situation là, dans les universités grecques, elle est vraiment difficile pour nous militants et même étudiants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une partie de la droite, de l'extrême droite, qui surfe un petit peu aussi sur la détestation de Tsipras et tente de semer un peu le doute aussi dans le milieu étudiant. Il y a une forme de confusion politique qu'on ressent aussi de plus en plus en France. Et donc ça, c'est vrai que c'est une menace qui est très présente et depuis des années. Il faut savoir que les antifascistes se battent pour expulser littéralement Obdoré ou tous des mouvements fascistes d'extrême droite qui tentent aussi de se créer une place au sein des universités. Donc c'est vraiment un combat très très rude et c'est pas un combat d'idées. Donc c'est vraiment un combat à mener parce que effectivement ça va être les élections arrivent là certainement en mai prochain.
Donc, en même temps que les élections européennes, quoi, quasiment.
À peu près, à la même période. Ça devrait. Ouais, pour l'instant, on n'a pas encore les dates exactes, mais ça devrait arriver prochainement. Donc, on est vraiment dans une période de trouble, vraiment clairement. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Les élections, autant pour les européennes que pour les législatives en Grèce, c'est impossible à prédire. Impossible.
Ouais, mais du coup, excuse-moi, mais bon, c'était pas tout à fait le fil qu'on avait décidé. Mais du coup, tu me fais penser à une chose. C'est que on n'a pas parlé, mais il faut en parler. C'est que il y a eu énormément. Moi, en fin de mois, donc on n'a qu'une heure par mois, donc c'est difficile de condenser un mois d'infos. Mais c'est les grosses manifestations aussi qu'il y a eu des retraités.
Ouais.
Des retraités. Et donc, du coup, il y a quand même beaucoup de personnes âgées en Grèce, avec les 400 000 exodes de jeunes, au minimum. Ouais. Donc, il reste beaucoup de personnes âgées. Donc, les retraités, c'est une grosse masse, quoi. Et c'est assez impressionnant, les images, de voir que des anciens, entre guillemets, avec être dans les rues. Et donc, du coup, Tsipras est en train de changer un peu son fusil d'épaule. Il devait faire une 15e ponction de plus. 14e ou 15e ponction sur les retraites, et là peut-être que son budget 2019 lui permettrait de ne pas enlever 20 euros de plus.
Il présente ça dans les médias comme une grande victoire, enfin de l'argent pour le peuple, ce qui est vraiment ridicule quand on sait qu'il a aussi participé à plusieurs baisses de retraites depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2015. Donc heureusement il n'y a pas grand monde qui croit à tout ce cinéma, mais effectivement il y a donc cette échéance-là, on vous en reparlera bientôt, mais ces élections, on n'a pas encore pour l'instant les dates exactes, mais mi-2019 probablement, et aussi une échéance très importante, on vous en a aussi déjà parlé, la question du procès d'Obdoré, qui dure depuis plus de 3 ans et demi. Donc il y a ces deux agendas-là parallèles qui vont vraiment être à surveiller, parce que la question c'est est-ce que les dirigeants, les cadres d'Obdoré vont pouvoir se représenter aux élections législatives et être potentiellement réélus. Pour l'instant,
il y a un gros enjeu là, justement. Oui, beaucoup de gens poussent dans les milieux libertaires, antifa bien sûr, poussent pour que les résultats du procès, que cette procédure aille au bout avant les élections.
Ouais.
Bien évidemment. Ce qui est un gros risque, je pense, compte tenu de mes derniers séjours en Grèce, c'est que je pense que malheureusement l'abstention va être énorme. Les gens ne croient plus du tout au blablabla politique, excusez-moi, du blablabla, mais ils se sont fait mener par le bout du nez depuis 10 ans, donc ils ne croient plus en grand chose, au moins dans les urnes, quoi. C'est un état de survie aujourd'hui pour le peuple.
Clairement, après il va falloir voir ce que les élections, c'est une chose, mais ce qui est surtout plus intéressant, en tout cas nous concernant à Marseille avec les Grecs, c'est ce qui se passe aussi à côté, c'est-à-dire l'autogestion qui continue à se mettre en œuvre, les luttes antifascistes. Et bon, ça, quoi qu'il en soit, ça va se poursuivre, il faut que ça s'amplifie, il faut que ça se renforce. Mais en tout cas, la résistance, elle est aussi dans la rue et dans les collectifs d'autogestion.
Mais oui,
et heureusement.
Bien sûr qu'il y a des gens qui résistent et qu'on en connaît quelques-uns, par exemple, mais tout, le pouvoir fait tout pour arrêter ces initiatives. Je sais qu'on a passé le film à Marseille récemment, etc., sur l'entreprise Viomé. Ben, Viomé qui commence à être un projet viable économiquement, hein, donc c'est un projet solidaire hein, qu'on a présenté déjà à l'émission. Ouais. Puis
à Thessalonique, je rappelle.
À Thessalonique, oui. Mm-hmm. Ben, aujourd'hui, c'est le propriétaire du terrain qui veut vendre le terrain. Quoi. Mm-hmm. Et les derniers, c'est aussi une brève qu'on n'a pas cité, mais les juges veulent absolument que ce terrain soit vendu le plus rapidement possible. Voilà. Donc, voilà. Quand vous avez une initiative qui fonctionne, qui est difficile à monter, qui est un peu en parallèle de ce monde néolibéral, eh ben, on vous met les bâtons dans les roues, on ne veut pas que vous existiez, c'est clair.
Ok, bah très bien, Eric, on va fermer cette deuxième partie d'émission. Je crois que tu voulais nous parler d'un appel à vos actions le 10 de chaque mois, c'est ça ?
Oui, alors bon, ça vient vraisemblablement de nos copains de Exercia, Rubiconas.
Principalement, ouais, principalement. Le groupe libertaire.
Donc oui, il y a un appel, mais qui est renouvelé tous les 10 du mois pour que ça soit des luttes sans frontières. C'est ça.
Une journée de lutte dans tous les pays du monde, possiblement. Et voilà, avec le même mot d'ordre, hein, s'émanciper des pouvoirs en place et puis voilà, organiser la riposte, quoi, de n'importe quelle façon, que ça soit l'autogestion, que ça soit des actions symboliques comme le Rubiconas. En tout cas, on va voir ce qui va se passer le 10 décembre prochain, mais c'est un rendez-vous qu'on va suivre le 10 de chaque mois. Tu voulais aussi nous annoncer, je crois, certains films qui vont passer dans la région, Eric.
Ah oui, il y a notre ami Yanis Yuluntas qui revient nous voir à Marseille le 13 décembre à Milbabor à 20h. Ça serait l'occasion de venir nous voir à 19h pour la réunion de Marseille avec les Grecs, si vous souhaitez participer au collectif. En agenda aussi, alors il faut commencer, bon, il va y avoir les fêtes de Noël bien évidemment, donc tout le monde va rentrer un peu dans sa famille, mais le prochain convoi solidaire pour la Grèce organisé par Anepos, donc Yanis et Maud essentiellement est prévu pour février, donc le collectif Marseille avec les Grecs, va démarrer sa collecte hein, courant janvier. Mmh. Et on attend les listes et les demandes, puisqu'on n'amène que des choses qui sont demandées. Quoi. Mmh. Voilà.
Et tu peux nous expliquer en quelques mots comment fonctionne ce convoi ?
Ah ben,
c'est pas de l'humanitaire.
C'est du solidaire. Mmh. C'est à la fois de l'humanitaire, mais du solidaire. C'est-à-dire qu'Anepos a choisi de n'aider que des structures autogérées qui ne sont ni financées ni aidées par des ONG, l'État, quelles que soient les institutions. C'est vraiment Et on essaye d'amener que des choses qui sont demandées et vitales. Bien sûr, on emmène aussi un peu d'argent, bien évidemment, quand il y en a, mais on essaye le fait de le convoi, c'est aussi de montrer que il y a une solidarité entre les peuples. Voilà, certains Français, certains francophones, on va dire, puisqu'en général il y a aussi des Belges et des Suisses dans le convoi. Donc celui de février, je ne sais pas si je pourrais participer, j'aimerais bien, risque d'être un des plus gros organisés et on annonce au moins une trentaine de fourgons. Quoi. Voilà. Okay. Donc il faut savoir que pour les participants, tout ce qui est récolté va en Grèce. Et pour tout ce qui est participants, covoitureurs, camions, etc., tout est à votre charge. Donc vos frais sont à votre charge si vous souhaitez accompagner les convois.
Très bien. En tout cas, c'est un beau combat internationaliste.
Oui, et puis ça ouvre vraiment des liens. Ça fait des liens, vraiment.
C'est la dimension humaine, surtout.
Oui, c'est la dimension humaine. C'est pas comme un clic de souris. Hein. Ça y est, j'ai voté, j'ai liké ou j'ai fait un clic de souris sur un réseau social. Là, on est sur le terrain. Et j'avoue que je ne sais pas si je peux y aller, mais d'en parler comme ça, j'ai envie d'y retourner, quoi, c'est clair.
Moi aussi, j'aimerais bien vivre ça un jour, parce que ça a l'air d'être quelque chose de très fort. Ouais.
Des moments de forte émotion humaine. Mm-hmm.
Très bien, Eric, on dirige vers la fin de l'émission. J'aimerais simplement vous rappeler que vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre page Facebook, Marseille avec les Grecs. On relaye régulièrement des vidéos, des textes, des communiqués de collectifs grecs pour vraiment informés sur ce qui se passe là-bas, toute la résistance qui est en cours. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à participer aussi à venir participer à nos réunions à Marseille. En tout cas, on vous remercie de votre écoute une fois de plus. Et on va terminer en chanson. Alors, je vais vous présenter un petit peu cette chanson parce qu'elle est quand même assez forte. D'ailleurs, je vous suggère d'aller voir le clip. Le chanteur s'appelle Leonidas Bolofas. Le titre, c'est Na Stafo Stapodiamo. On pourrait traduire par « Je dois me tenir debout ». Voilà, c'est vraiment cette dimension-là qui est présente dans cette chanson. Elle met en scène en fait, des Crétois dans un café grec. Et en fait, il y a à l'arrivée d'un politicien qui rentre dans ce même café et qui leur demande de voter pour lui, un de ces Crétois se lève et il entreprend une danse énergique comme pour repousser loin, très loin, les fables politiciennes. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc je vous laisse écouter.
Merci Sidi pour la technique.
Merci
à bientôt Sidi, merci.
Με βομβαρδισμένο τοπίο, με ένα σπιχάκι που είναι μουτζουρωμένο. Στη ζωή στο τελευταίο θρανίο και με πουλί ξενιτεμένο. Έχω πείσμα και γερότο στο μάχη, σαν τον Παύλο με την καλπική λύρα. Την αγάπη που έχω δώσει δεν πήρα, έτσι το θέλησε η μοίρα. Άιντε να σταθώ στα πόδια μου, μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο.
Άιντε να σταθώ στα πόδια μου. Μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο. Στον κόσμο μεγαλώνω τον άφωνο. Ποιος τα αλήθεια παίρνει αυτό που το αξίζει.
Δεν το θέλω μα μου βγαίνει παράπονο. Γιατί η ρόδα δεν γυρίζει.
Άιντε να σταθώ στα πόδια μου. Μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα.
Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο.
Άιντε να σταθώ στα πόδια μου. Μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να πω στο χώρο.
Je dois me tenir debout. Je vous rappelle, avant de vous quitter, que vous pouvez nous réécouter les lundis de tous les mois. Et Eric, merci pour ta présence, pour ta participation une fois de plus.
Merci Radio Galère, merci Nicolas.
Merci Radio Galère une fois de plus pour l'accueil. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre émission de Marcher avec les Grecs. Talem.